Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance du Père Marie-Antoine, c'est une troisième émission que nous vous proposons aujourd'hui. Nous découvrons la proximité de l'apôtre du Midi avec la Vierge Marie. Quoi de mieux que ce mois de mai qui lui est consacré pour approfondir ses liens entre le prêtre de Lavaur et celle qui était si chère à son cœur. Pour rappel, le Père Marie-Antoine est né à Lavaur en 1825. Il est mort en odeur de sainteté à Toulouse en 1907. Missionnaire infatigable, prédicateur de feu, il a été l'ouvrier passionné et confiant de la Sainte Vierge. Le Père Marie-Antoine, surnommé par les fidèles le Saint de Toulouse, a été déclaré vénérable le 24 janvier 2020 par le pape François. Pour nous présenter ces liens étroits entre la Vierge Marie et l'apôtre du Midi, nous sommes avec Jacqueline Bailey, biographe du Père Marie-Antoine et fondatrice de l'Association pour la mémoire du Père Marie-Antoine. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Isabelle.
À vos côtés, le président de cette même association, l'AMPA, Michel Clerguet. Bonjour Michel.
Bonjour Isabelle.
Et nous attendons le frère Clément Bonnoux, franciscain de l'Immaculée Conception, de la même famille religieuse que le Père Marie-Antoine. Il va pas tarder, il est dans les embouteillages. Voilà, l'heure n'est pas très pratique. À lire la biographie du Père Marie-Antoine, il semblerait que la Vierge Marie ait été, d'une façon assez particulière, présente tout au long de sa vie. Jacqueline Bailey, quelle place a tenue la Sainte Vierge dans la vie du Saint de Toulouse?
Une place assez extraordinaire. Vous l'avez dit, il est né en 1825, le 23 décembre, et déjà, il était baptisé, mais aussi consacré à la Vierge Marie le jour de sa naissance. Et son père dit qu'il a été protégé dès son berceau. Il a failli mourir. Il était mourant 8 fois en bébé. Et 8 fois, la Sainte Vierge l'a sorti de là. Et ensuite, il a eu une santé de fer jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. Et bien sûr, pour lui, c'était la protection de... Et pour sa famille, d'ailleurs, la protection de la Vierge Marie.
Oui, il n'y avait aucun doute là-dessus.
Ah oui, aucun. Et jeune séminariste à Toulouse et toute sa vie, comme vous l'avez dit, mais déjà jeune séminariste, quand il rencontrait une difficulté intérieure ou dans son cadre de missionnaire, il demandait à un jeune enfant le plus petit possible, pourvu qu'il sache réciter un « Je vous salue Marie », et il lui demandait de prier un « Je vous salue Marie » pour lui. Et il était sûr, mais certain, qu'il obtenait, et il obtenait du coup. Avec une foi pareille, le Seigneur, vous savez, entend.
Il ne pouvait pas refuser.
Oui. Il est rentré d'ailleurs séminariste, il est rentré chez les enfants de Marie, ce que ne faisaient pas tous les séminaristes, loin de là.
Est-ce que vous pouvez préciser, Jacqueline Bailey, de quoi il s'agit quand on parle des enfants de Marie?
Les enfants de Marie, c'était une congrégation qui, à cette époque-là, était assez... on choisissait un peu ceux qui rentraient. Et pour lui, c'était très flatteur dès les premiers mois qu'on lui ait demandé de rentrer chez les enfants de Marie.
D'accord.
Il n'attendait vraiment que cela. Et puis ensuite, quand il a été vicaire, c'est à Notre-Dame du Bout du Puy, où il allait tous les samedis matins au lever du soleil, avant de prendre son service, il y avait plusieurs kilomètres et ça grimpait rudement.
C'était à quel endroit? C'était au-dessus de Lavaur alors?
C'était quand il était vicaire à Saint-Gaudens.
À Saint-Gaudens.
Voilà, et c'était à la frontière de Saint-Gaudens que se trouve Notre-Dame du Bout du Puy. Et donc, il y allait tous les samedis matins faire un pèlerinage. Et donc, la montée était articulée par un chemin de croix. Et donc, c'était à la deuxième station du chemin de croix, là, qu'il a entendu l'appel franciscain. Voilà. Et puis, par exemple aussi, son père lui avait fait recevoir le scapulaire du Mont Carmel dès l'âge de 6 ans.
Ah oui, c'est jeune.
Dès l'âge de 6 ans. Et entre autres choses, là, il en sentait la protection aussi, bien sûr. Et entre autres choses, ça lui a permis à 2 reprises d'arrêter un incendie. À Saucin, en 1868, il était en visite dans une famille et la grange a pris feu. Et ils se sont précipités, lui a jeté son scapulaire, et le feu, selon le témoignage de la famille, s'est arrêté. Et quand son couvent a brûlé en 1883, pareil, son scapulaire a fait qu'il n'y a eu qu'une seule aile du couvent qui a brûlé, ça aurait pu être tout le couvent. Voilà. Et tout cela, il en était sûr. Alors, je vais raconter une petite anecdote à propos du scapulaire. Quand il y a eu le premier pèlerinage des ouvriers français, ils étaient 1600, c'était énorme.
Premier pèlerinage à Lourdes ?
À Rome, pardon.
À Rome.
Le premier pèlerinage à Rome. Et le père Marie-Antoine accompagnait Albert Demain, Léon Armel, tous ceux qui ont fait... grâce auquel s'est répandue la doctrine sociale de l'Église en France. Et donc, à la fin, il y avait une grande réception où un certain nombre d'entre eux étaient là. Et on dit au père Marie-Antoine, à la fin de la réception, de dire un petit mot. Alors, il se lève et puis il avait les mains pleines, mais fermées. Et alors, il dit, devinez qu'est-ce que j'ai entre les mains. Alors... c'est un passeport pour le ciel. Et c'était les scapulaires qu'il a fait distribuer à tous les ouvriers, avec tous les mots qui convenaient.
Oui, on imagine.
Pour ce geste-là.
Oui.
Voilà, j'ai voulu donner cet aspect un petit peu de la spiritualité au départ, si
oui,
je puis dire.
Oui, c'est ça, au départ. Et puis, il avait, il y a une anecdote que vous m'avez racontée aussi en préparant cette émission, un lien avec Notre-Dame de la Garde, et puis un petit hôtel qu'il aurait trouvé en arrivant à Toulouse.
Oui, oh ben vous savez, toute notre émission va sans doute être égrenée d'anecdotes de ces gens, mais celle-là est importante, vous avez raison. C'est lorsque il entend l'appel, il va faire le noviciat à Marseille, des Capucins, et deux ans après, il est de retour pour une mission très importante, c'est sans argent d'ailleurs, de voir fonder un couvent capucin à Toulouse, comme il y en avait eu depuis presque... en tout cas franciscain, depuis presque au temps de Saint-François. Il y avait déjà un couvent franciscain à Toulouse. Donc voilà, renoué avec la tradition. Et il visite plusieurs terrains. Et quand il arrive à celui où il a fait son couvent, celui de la côte pavée, il marche sur le terrain. Et puis, dans les broussailles, il y avait un petit hôtel incrusté de coquillages. Et avec une inscription, qui était en remerciement de Notre-Dame de la Garde pour une grâce, enfin une phrase de ce genre. Et en fait, le propriétaire était un ancien marin qui avait été sauvé, disait-il, par Notre-Dame de la Garde. Et dès qu'il il s'était installé sur ce terrain, il avait voulu faire ce petit hôtel. Or, le père Marie-Antoine, quand il était en partant de Marseille, bien entendu, il avait confié à Notre-Dame de la Garde
sa mission.
Donc, le terrain était tout trouvé. En plus, il dominait toute la ville. Enfin, le terrain était trouvé.
Oui, un beau clin d'œil, en tout cas. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des moments où le père Marie-Antoine on entend bien que, en fait, à chaque fois qu'il se rend dans un lieu, il y a un lien avec la Sainte Vierge. Il va dans un lieu de pèlerinage. Il a été, vous l'avez dit, il a été à Lourdes. Il a été aussi à Notre-Dame de Garaison dans la région. Et puis il avait une habitude d'offrir aussi des, notamment là, ses vêtements sacerdotaux à Notre-Dame de Garaison.
Tout à fait. En fait, il semblait y avoir vraiment une réelle coopération entre le père Marie-Antoine et la Sainte Vierge, au point que certains disaient qu'il aidait la Sainte Vierge à faire ses miracles. Alors, quand je dis ça, en général, il y a un petit sourire ironique en disant « bon, elle va un petit peu loin, là !» Mais quand j'ajoute, simplement en priant et en faisant prier, on comprend mieux. On comprend mieux que pourquoi il y avait cette coopération. Et pour lui, c'était la prière qui était le grand levier, celui et pour le père Marie-Antoine, c'était l'arme absolue, quoi. Et il réussit à tous les coups de temps. Il avait cette foi dans la prière.
Oui, c'est à Notre-Dame de Garaison qu'il dit que je suis devenu votre apôtre, ô Marie, que je vous chante sur tous les cieux, en attendant d'aller vous voir, vous aimer, vous chanter au ciel. Et il dit, c'est à Garaison, dira-t-il plus tard, qui m'a révélé ma mère. J'ai senti que ce que c'est qu'aimer charnellement ma mère du ciel. J'ai senti mon cœur battre sur son cœur.
Oui, quand même une proximité très grande.
Tout à fait. On sent que il est l'enfant, le serviteur, l'ouvrier, l'apôtre, qu'il est tout à Marie et que Marie est tout pour lui. Et ça, dans tous les instants, dans les instants de bonheur, de réussite, de succès, comme dans les instants de difficulté, parce qu'il en a bavé de temps en temps.
Il en a bavé, les missions n'étaient pas si faciles.
Non, et de moins en moins, on ira vers la fin du siècle.
Oui, en plus, oui, c'est ça. Le frère Clément Bonou nous a rejoint. Bonjour frère Clément.
Bonjour Isabelle.
Alors nous avons parlé...
Bonjour Jacqueline, bonjour Michel.
Voilà, pour commencer cette émission, nous avons parlé de cette proximité du père Marie-Antoine avec la Vierge Marie depuis tout petit, puisque Jacqueline Bellet nous disait qu'il avait été sauvé à plusieurs reprises de la mort par la Vierge Marie et sa famille comme lui en était vraiment convaincu. Qu'est-ce que dit le père Marie-Antoine de la Vierge Marie, frère Clément Bonou?
Isabelle, je voudrais quand même vous raconter quelque chose d'abord.
D'accord.
Oui, parce que tout à l'heure je vous suivais, j'étais dans l'embouteillage, merci de m'avoir excusé auprès des auditeurs et qui est en plaisance pour ici. Alors moi, j'ai lu le père Marie-Antoine et sa grande dévotion aux trois Ave Maria. Et trois Ave Maria dans les choses simples pour demander une grâce à Dieu. Alors, me voyant dans l'embouteillage, j'ai dit, mais bon, Isabelle, Jacqueline, Michel, les auditeurs, qu'est-ce que je vais faire? Je récite trois Ave Maria. Tout à l'heure, la route s'est dégagée. Et je ne pensais pas arriver avant la fin de l'émission.
Ah oui.
Et là, j'ai dit, Père Marie-Antoine, merci.
Ça, c'est concret.
C'est concret. Et là, c'est il y a quelques minutes. Alors, je recommande cela aussi aux auditeurs, auditrices.
Trois Ave.
Trois Ave, la dévotion aux trois Ave. Le père Marie-Antoine s'y attachait beaucoup. Et le père Marie-Antoine, c'est comment rejoindre le cœur du Christ à travers Marie et à travers ce chemin si simple de la grâce de Dieu. Alors, pour répondre à votre question, j'ai dit, pour le père Marie-Antoine, pour ce que j'ai lu et compris de lui, Marie n'est pas seulement une contemplation, c'est un chemin. C'est un chemin vers Dieu, et cela résume toute la pensée franciscaine d'ailleurs, et aussi de saint François d'Assise, et en même temps de dire, si Dieu a voulu choisir un chemin, c'est pour que nous puissions prendre ce chemin. Et Dieu a voulu choisir Marie. Et je crois que le père Marie-Antoine nous montre ce chemin. Marie conduit toujours à Jésus. Voilà.
Marie conduit toujours à Jésus. Mais comme nous disait Jacqueline, le père Marie-Antoine, il aidait la Sainte Vierge à faire des miracles. Donc pour lui, peut-être qu'elle était plus qu'un chemin.
Oui, mais chemin pour conduire vers le Christ. Mais qui agit? D'ailleurs, Marie même nous montre toujours le Christ.
C'est vrai.
Alors, et si le père Marie-Antoine utilise le chemin le plus facile, comme dit un autre saint franciscain, c'est Maximilien Marie Kolb, le chemin le plus facile, l'échelle rapide pour aller vers le Christ, eh bien, le père Marie-Antoine nous montre aussi ce chemin. Et Marie est l'instrument de grâce de Dieu pour notre vie. Et chacun de nous, lorsque nous regardons vers Marie, nous sommes aussi instruments de grâce dans les mains de Dieu. Et nous sommes les mains, les pieds, le cœur, la bouche pour annoncer Dieu. Marie l'a fait et nous sommes aussi dans cette mission-là. Parce que le père Marie-Antoine, vous savez, c'est celui qui a découvert ce regard de Marie. Et celui qui a vécu avec elle et celui qui nous envoie aussi dans cette mission. Quand j'écoutais Jacqueline tout à l'heure évoquer, en voiture, évoquer tout ce que le Père Marie-Antoine a apporté à la dévotion mariale à travers Lourdes, eh bien, c'est beau. C'est cela. Nous sommes instruments de grâce dans les mains de Dieu.
Et oui, et oui, le Père Marie-Antoine le résumait bien. Il disait, je suis à Lourdes le brancardier des âmes. C'est lui qui a mené les âmes vers le Christ.
Une belle expression. Oui, brancardier de Dieu.
Et en tant que missionnaire, effectivement, Marie était son chemin. Mais en plus, Marie était aussi celle qui l'aidait à mettre les autres en chemin. Et c'était ça son job de missionnaire.
Oui. Aider les autres
à retrouver ce chemin de Marie.
Le chemin de Marie, c'est notre grâce baptismale. Hein. Et c'est beau quand moi je fais des baptêmes. Et le dernier rite, c'est la lumière. Nous sommes porteurs de lumière. Quand on remet la lumière, ce sont des enfants, quand on remet la lumière aux parrains, marraines et aux parents, et vous êtes porteurs de cette lumière. Et je crois, en lisant le Père Marie-Antoine, il aide les fidèles à porter cette lumière, à être témoins de cette lumière. Et le chemin facile, il est choisi par Marie.
Voilà. Marie comme chemin, Marie aussi comme modèle d'humilité. Qu'est-ce qu'il disait le Père Marie-Antoine à ce propos?
Vous savez, les saints évoquent les vertus de Marie. Et pour le Père Marie-Antoine, Marie nous montre le chemin pratique pour vivre notre vie chrétienne et pour être reflet du Christ. J'aime répéter cette expression latine, alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ, ipse Christus, le Christ lui-même. Eh bien, Marie nous montre ce chemin. Marie est l'expression de la foi, le oui de Marie. Marie est l'expression de l'espérance. Elle a cru, elle est restée, et elle a cru à la parole de Dieu, elle allait jusqu'au bout, au pied de la croix. Marie est l'expression de la charité. La charité, les trois vertus théologales, eh bien, la charité, être debout au pied de la croix, accueillir, être signe de la grâce, eh bien, Marie est modèle qui nous montre le chemin, la porte, les fenêtres ouvertes pour à céder au Christ. C'est pour cela d'ailleurs, Isabelle, que Saint François d'Assise, le saint patron de Père Marie-Antoine, il est capucin, avait fondé son ordre au cœur de Sainte Marie des Anges, au cœur de la Vierge Marie. Et il disait, même si on vous chasse par la porte, revenez par la fenêtre. C'est-à-dire, même si on vous chasse par la porte du cœur de Marie, revenez par la fenêtre. Eh bien, c'est ce que j'écoutais de Jacqueline tout à l'heure, quand tu parlais des scapulaires, voilà le passeport pour le ciel. C'est magnifique. Voilà.
Oui. Elle m'y trouvait toujours la bonne expression, le Père Marie-Antoine. C'est pour ça qu'il marquait quand il parlait. Parce que, voilà, le passeport pour la vie, pour le ciel, c'est des phrases qui... C'est un style qui est très moderne, d'ailleurs, en même temps.
Oui, oui.
Parce que c'est un vocabulaire qu'on peut avoir toujours.
Il avait, justement, dans son talent de missionnaire et de prédicateur, il avait ces petites phrases chocs qui se retenaient, en fait.
C'est raccourci, voilà. Ouais. D'ailleurs, il les répétait, justement, pour que les gens se le mémorise.
Le Père Marie-Antoine, il a écrit de nombreux ouvrages, hein, il a rédigé plus de 80 livres, il y en a quand même un certain nombre sur la Vierge Marie. Est-ce que l'un de vous peut nous parler un petit peu de cette œuvre littéraire?
Il a écrit effectivement énormément. Tout à l'heure, vous parliez de sa dévotion aux trois Ave Maria, et on a un petit livret, justement, où il le présente, cette dévotion, et il a écrit en particulier trois lettres au fondateur, trois longues lettres, qui donnent tout sur cette dévotion, si bien que le fondateur l'a mis en exergue dans son livre, dans son manuel, présentant, vous savez que c'est à la basilique de Blois que tout est parti, mais des livres, au tout début de Lourdes, il aura publié par exemple le Lys Immaculé. C'est un bouquin de 300 ou 400 pages qui est un vrai manuel. Ça a été le premier manuel de Lourdes et qui, avec des éditions jusque jusqu'en 1900 et même au-delà, puisqu'il y a eu des éditions encore après 1900. C'était vraiment le manuel. Il trouvait le temps, il dormait très peu.
Oui, c'est ça, parce que voilà, il faut le
il
temps
dormait
d'écrire,
très peu.
Hein.
Ouais, ouais. Donc il trouvait le temps d'écrire. Il devait avoir la plume relativement, probablement assez facile, hein, ouais. un joli style, il est très ramassé et très populaire en même temps. Il a écrit un livre sur Sainte-Bernadette, mais il a écrit aussi les missions sociales de Bernadette, et où la Sainte Vierge, il y a beaucoup. Il a écrit
sur l'Immaculée Conception aussi.
Il a écrit, on a un petit livret qui réunit tous ces textes sur l'Immaculée Conception, parce que c'est éparpillé aussi dans des tas de livres.
Oui, parce que c'est différentes prédications qui sont rassemblées.
Et ça s'adresse, il y a le trésor des curés, il s'adresse à différentes... Mais il y a aussi un très très beau livre sur Notre-Dame des Douleurs. Un très très beau livre, un gros livre aussi. Où vraiment il montre que si Dieu ouvre le cœur des hommes souvent par la souffrance, la Sainte Vierge est celle qui, avec ses mains toutes maternelles, aide à atteindre non pas la désespérance, mais au contraire la foi en Dieu et donc l'espérance dans cette souffrance.
C'est ce que vous disiez, frère Clément Bonou, le père Marie-Antoine a insisté sur le modèle d'espérance qu'est la Vierge Marie.
Oui, comme disait Jacqueline, je n'ai pas eu la chance de lire tous les ouvrages sur la Vierge Marie du Père Marie-Antoine. Je suis à Toulouse depuis bientôt 2 ans et j'ai été converti au Père Marie-Antoine par Jacqueline et Michel. Et donc j'ai découvert le Saint de Toulouse et j'ai lu les synthèses. Et le fil conducteur, pour répondre à votre question, de ce que j'ai découvert de cette orientation de Père Marie-Antoine sur la Vierge Marie pour découvrir le Christ, j'ai lu des phrases fortes qui m'ont vraiment édifié sur l'imitation de Jésus-Christ, l'imitation de Marie et pour imiter le Christ. Le Père Marie-Antoine disait, on ne copie pas un modèle, on ne copie bien un modèle que lorsqu'on l'aime passionnément. Pour copier un modèle, il faut l'aimer. Et je crois que l'amour du Père Marie-Antoine à Marie, c'est pour arriver à cette imitation, pour, comme vous le disiez tout à l'heure, vivre de ses vertus. Et vivre de ses vertus, c'est imiter le Christ. Alors, une autre phrase que je trouvais sur l'espérance, une phrase belle, c'est « Le sourire de Marie Immaculée dans la grotte de Lourdes » est le gage infaillible d'un triomphe certain. Ah, mais il faut aller jusque-là, c'est trouver que rien ne se perd. Et quand tu vois cette foule à Lourdes, eh bien, moi, je reviens à peine de Fatima et je vois que Marie, elle, c'est ce bras ouvert qui attire vers le Christ. J'espère quand même que le pape va nous le redire en septembre prochain quand il va venir à Lourdes.
Je vous propose de marquer une pause musicale et suivant vos conseils, Jacqueline Bellet, nous allons écouter l'Ave Maristella qui est chantée par les moines de Ligugé. L'abbaye de Ligugé, le père Marie-Antoine aimait bien y séjourner, donc c'est près de Poitiers. C'est une région qu'il a beaucoup évangélisée, vous m'avez dit. Et cet hymne, ce cantique Ave Maristella, était chanté à Lourdes avant que soit composée l'Ave Maria de Lourdes par le père Jean Guénier. Donc nous écoutons cette Ave Maristella.
Ave Maristella. Mutans evidor.
Vivante Église, Isabelle Duché.
C'est une troisième émission sur le Père Marie-Antoine que nous vous proposons à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Jacqueline Bailey, Michel Clerglet et le frère Clément Bonnou nous accompagnent dans cette découverte de cet apôtre de la Vierge Marie. Juste avant cette pause musicale, frère Clément Bonnou, vous nous parliez de Marie comme chemin, Marie comme modèle d'espérance. Marie est pour le Père Marie-Antoine aussi étoile de la nouvelle évangélisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre elle intervenait et puis peut-être quel était le contexte historique et religieux dans lequel le Père Marie-Antoine a prêché?
Le Père Marie-Antoine, tout ce que Jacqueline avait présenté dans la première partie de ce rendez-vous, il est en plein cœur du 19e siècle. Et nous savons bien dans l'histoire quelles étaient les caractéristiques de ce siècle. C'était un monde marqué par l'indifférence religieuse, l'anticléricalisme très marqué et la sécularisation, hein, et voilà, et tout ce que cela comporte, un peu d'attaque à la foi. Et la pauvreté, il faut démarquer aussi la pauvreté parce que c'est entre les deux guerres, hein. Et ce que cela représente, il y a aussi les blessures sociales. Alors, quelle était la réponse de ce saint qui répondait à son époque? C'était annoncer l'évangile dans la simplicité, comme tout franciscain d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'il partait dans les rues. Et voilà, j'ai lu une belle conférence de Jacqueline à Saint-Étienne où il racontait comment le Père Marie-Antoine passait avec sa croix sur sa bure, faisait baiser la croix. Des gestes si simples et pour rapprocher du Christ et pour élever les cœurs qui étaient dans la désespérance. Il allait vers les pauvres et il parlait au peuple et il inventait des formes nouvelles, tout simples, de retrouver la confiance intérieure. L'utilisation des pèlerinages et cette beauté qu'on découvre aujourd'hui à Lourdes et qui a été portée ailleurs. Je parlais de Fatima tout à l'heure que j'ai découvert la semaine dernière et qui était des choses simples vécues à Lourdes. C'est beau ça. Et on ne voit pas tout ce qu'il y avait la main derrière. bon, il écrivait beaucoup pour répondre à une soif des personnes. Voilà, cette nouvelle évangélisation, la nouvelle évangélisation dont parlait Jean-Paul II, c'est répondre par l'évangile à un besoin de notre époque actuelle. Et le Père Marie-Antoine, il répondait parfaitement. À travers ces choses aussi simples, toucher les cœurs, faire confiance à Marie. Moi, je crois que en lisant le Père Marie-Antoine, ce n'est pas un saint seulement du passé. Il est un maître pour nous aujourd'hui. Et pour cette nouvelle évangélisation, c'est-à-dire les soifs actuelles, comment donner quelque chose de comestible, de l'évangile à la soif de notre époque. Voilà. Donc c'est ce que le Père Marie-Antoine a fait à travers ses moyens concrets d'évangélisation dans une demande concrète de l'époque.
D'accord. Alors, vous avez parlé des pèlerinages et c'est vrai que le Père Marie-Antoine a institué de nombreux pèlerinages. Il a été à Lourdes. On voit bien que là aussi, il y a une coopération du Père Marie-Antoine avec la Vierge Marie. Comment il a instauré finalement ces pèlerinages et comment il a mis la Vierge Marie en place dans ces différents sanctuaires?
Alors, il faut comprendre que s'il a été un pionnier à Lourdes, c'est par la par une certaine conjoncture, c'est que il a rencontré dès 1860 le curé Peyramale et il s'est créé, c'était de fortes personnalités, s'est créé une amitié d'une solidité extraordinaire entre ces deux hommes. Et c'est grâce à cela que, en particulier entre 1860 et 1866, où les pères de garnison sont venus organiser un petit peu les choses, mais ils étaient que deux et ils se faisaient vraiment toutes les décisions. Le père Amal tenait beaucoup à ce que le père Marie-Antoine soit là, le conseil, etc. Parce qu'il voyait en lui, il était jeune encore, le père Marie-Antoine, mais c'était déjà quelqu'un qui avait un aura, un charisme extraordinaire, et que ce serait lui qui lui mènerait, c'est ce qui a été le cas, de ses premiers grands pèlerinages. Et puis il avait une énergie joyeuse, son esprit d'initiative, c'était un bourreau de travail, sa ferveur justement à faire prier, sa foi bouger des montagnes, c'est ce qu'il fallait pour démarrer quelque chose de rien, d'un peu de rien, c'était un tout petit village. Sa générosité, sa charité, qui faisait qu'il s'entendait avec tout le monde, et quand il y avait des dissensions, et il y a toujours des dissensions, ben il recollait les morceaux avec une gentillesse. Et toutes ces qualités ont fait qu'il a été incontournable, vraiment, dans toutes les premières années. Et ils ont pris ensemble des mesures donc, pour favoriser les pèlerinages, etc., en faisant des petits essais. Alors, il avait son premier petit essai, c'était dès 1860. Il avait un copain qui avait été vicaire avec lui à Saint-Gaudens et qui était devenu curé de Montrégeau. Et donc, c'est avec lui qu'il a commencé à faire. Alors, d'abord, un petit groupe, parce que il faut savoir que on a pu vraiment faire des pèlerinages qu'à partir de 1862 et le mandement de l'évêque de Tarbes autorisant les avant c'était que des petits groupes même au début c'était des petits groupes parce qu'on avait aucune structure ni hôtelière ni même de
oui,
petits commerces
héberger les pèlerins,
de tout ça et donc c'est pour ça que les choses sont allées un petit peu lentement mais en même temps il fallait de l'organisation et dès 1863 c'est le fameux petit groupe devant la grotte en disant et le père Marie-Antoine qui dit mais il faut que ces cierges marchent et chantent et ça a été la première procession flambeau ils ont tous pris les qui étaient dans les piquets là les cierges et puis ils ont fait leur première procession alors que en 63 il n'y avait même pas encore la statue de la Vierge dans la grotte c'était un portrait. Ça a été, je crois que c'est en 64, en,
Oui, en 64. Que...
Donc il a initié, le Père Marie-Antoine, il a initié la retraite au flambeau, il a initié aussi ses processions.
Toutes les processions.
Toutes les processions.
Oui, oui, et, oui. Et, Malade, Saint-Sacrement.
Ah voilà, c'est ça.
Et prière nocturne.
Il faisait aussi, donc vous nous en avez parlé un petit peu au début de cette émission, des manuels du pèlerin. Est-ce que vous pouvez, vous, l'un ou l'autre, décrire qu'est-ce qu'il y avait dans ces manuels et qui permettait finalement de découvrir la Vierge Marie et puis de la prier avec simplicité?
Il y avait tout. Il y avait la doctrine, il y avait l'historique, et puis il y avait toutes les cantiques. Il en écrivait beaucoup.
Ah oui.
sur des airs connus, il allait vite. Mais pour que chacun ait ce qu'il faut, on a plusieurs livrets de chants pour les campagnes de l'Aude, pour les Montalbanais. Il y a 4-5 feuillets avec des cantiques. Et puis, voilà, beaucoup de prières aussi. Il y a énormément de prières du Père Marie-Antoine. On a un petit livret du Sacré-Cœur de Jésus. Mais beaucoup de gens s'étonnent de voir ces prières qui sont comme si... elles étaient connues de tous, alors qu'on les découvre pour la première fois. Vous voyez, c'est le cycle du Père Marie-Antoine. Oui.
C'est en quelque sorte, un peu comme disait Jacqueline, c'est le livret du pèlerin.
Oui.
Et puis, c'est quand même beau d'arriver dans un lieu de pèlerinage et de savoir ce qu'on va y faire. Et je crois que ces livrets contenaient, d'abord, qu'un pèlerinage, pourquoi je suis là et quelles sont les activités que je peux faire pour les activités de piété, bon, les actes de piété que je peux faire pour ressortir de ce lieu avec des fruits de grâce. Et donc, l'explication du pèlerinage, les activités à faire, le chapelet, le chemin de croix, les chants, des prières pratiques, des choses si simples et qui permettent d'aller dans un lieu de pèlerinage et d'en ressortir enrichi par la grâce de Dieu.
Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que Lourdes hein, dans lequel le Père Marie-Antoine a été, puisqu'il a... Il a quand même marqué son passage et relevé un certain nombre de sites Mario. Michel Clerguet, comment ces sanctuaires prennent leur part au bicentenaire de la naissance du Père Marie-Antoine, puisque c'est ce bicentenaire dans lequel nous sommes cette année, quelle est leur participation?
Alors d'abord, ce que je pourrais dire, c'est que le Père Marie-Antoine a participé à de nombreuses fêtes de couronnement de la Vierge.
Ah oui.
Et parmi celles-ci, et qui sont en relation avec notre bicentenaire, il y a Notre-Dame de Garaison d'abord, où il a été, on va dire, l'infatigable capucin, il va en être l'âme de cette magnifique fête. Et d'ailleurs, la semaine catholique tracera qu'en une nuit et une journée, il a... Plus d'un millier d'hommes sont venus au Père pour recevoir de lui le sacrement de la tendresse miséricordieuse de Dieu. Et donc c'est là tout ce qu'il faisait pendant ces grandes fêtes, ces grandes missions, prier, convertir et permettre à chacun de se réconcilier vraiment avec le Seigneur. Donc Notre-Dame de Garaison, il faut savoir que ce genre de fête rassemblait 40 000 à 50 000 personnes,
oui.
Souvent. Il y a Notre-Dame de Garaison, bien sûr, qui a eu lieu. Donc,
Notre-Dame de Seignac, on en a parlé.
Notre-Dame de Seignac, parce que bon, déjà, le Père Marie-Antoine était connu, là, on vient de le dire, pour le grand pèlerinage, le premier grand pèlerinage d'hommes qui a eu lieu en 74. Et donc, Monseigneur Bourré, à l'époque, l'a appelé aussi pour cette fête du couronnement et où il y avait d'ailleurs un conflit et une incompréhension avec la population de Seignac qui croyait qu'on voulait leur prendre cette Vierge pour la restaurer malgré tout et ce fut pour lui aussi une grande victoire dont l'évêque dira il n'y a que le Père Marie-Antoine pour faire de semblables choses. Et d'ailleurs, le Monseigneur Bourré le consacrera comme apôtre de Rodez aussi.
Ah oui, aussi.
Donc c'est pour dire un petit peu la présence qu'il avait sur place.
Est-ce qu'il y a d'autres sanctuaires qui
alors,
ont vraiment
Livron,
connu
bien sûr,
la présence du Père Marie-Antoine et
Notre-Dame.
Qui aujourd'hui continue en fait cet héritage.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a Notre-Dame de Livron où il est parti là-bas pour donner une première mission. Et puis en fait, il fondera un pèlerinage. Et ces pèlerinages, donc, qui se continuent jusqu'en 1903, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, et qui attirera bien sûr des foules énormes.
Et aujourd'hui, ça a repris ces pèlerinages.
Oui, ça continue. D'ailleurs, nous allons y participer encore cette année autour de la fête de la Nativité du 8 septembre.
D'accord.
Et voilà. Et donc, c'est à Livron d'ailleurs qu'il a écrit le manuel du pèlerin de Livron, comme il a écrit le manuel du pèlerin de Notre-Dame du Pêche et de Lourdes, etc. Et il y a aussi Quézac. Et là aussi, il vient y prêcher une première fois, et ensuite.
Et donc, après, ça a instauré le pèlerinage.
Voilà, il a instauré un pèlerinage. Donc, il a donné pratiquement au total plus de 19 retraites à Quézac. Et d'ailleurs, les pèlerins, c'est dans le Cantal, oui, entre Figeac et Aurillac, près de Maurs. Et c'est d'ailleurs le curé de Quézac qui offrira au père Marie-Antoine, lors de la construction de la chapelle du Pêche, un beau Christ romain pour cette chapelle qui est maintenant au Pêche. Ah, et cette année d'ailleurs, les pèlerins de Quézac sont venus en pèlerinage à Notre-Dame du Pêche, donc à Lavaur, et nous leur rendrons également...
Oui, dans le cadre du bicentenaire.
Oui, voilà. J'entends bien. Donc effectivement, dans le cadre du bicentenaire, on retrouve les sanctuaires que le père Marie-Antoine a visités à de nombreuses reprises et qui prennent aussi leur part pour prier avec le père Marie-Antoine.
Voilà, pour dire Rocamadour également.
Exactement. Oui, c'est vrai. Seignac, Lourdes, La Drèche, Quézac, vous avez dit Laguet aussi, au-dessus de Nice, Pêche.
Laguet, il faut dire un mot parce que...
Alors, très court.
Oui, Notre-Dame de Laguet, où nous allons aussi être présents pour la fin de ce mois de mai, où il y a eu un témoignage de bilocation. Une dame, la comtesse de Pouilly, qui était à Nice, est allée se confesser à la cathédrale de Nice auprès du père Marie-Antoine.
Et
tellement convaincu parce que le père Marie-Antoine l'a dit, a invité son mari à y aller également. Sauf que il prend le temps, il va au confessionnal et il ne voit personne. L'église, la cathédrale était vide, on n'a vu personne rentrer, personne sortir. Et il demande au sacristain, mais... Où est le père Marie-Antoine? Et on lui dit, mais le père Marie-Antoine est à 4 lieues d'ici.
À Notre-Dame-de-la-Gué.
Il est à Notre-Dame-de-la-Gué. Il est parti ce matin, donc il ne pouvait pas être là.
Ah oui. Donc là, bilocation du père Marie-Antoine pour confesser cette
extraordinaire. Ça fait partie du procès de béatification, d'ailleurs, ce témoignage de la comtesse de Pouilly.
D'accord. Oui. Merci beaucoup. Il est malheureusement le temps de nous quitter. Merci Jacqueline Bellé. Je rappelle la toute dernière sortie du livre sur le Père Marie-Antoine, le florilège des écrits du Père Marie-Antoine de Lavaur, écrit par le frère Jean-Michel Rossigny aux éditions du Pêche. Merci frère Clément Bonou.
Merci Isabelle.
Michel Clerguet, c'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Et vous nous avez emmenés ce matin sur les traces du Père Marie-Antoine et de son amour de la Vierge Marie. Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.